RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi ensoleillé, lundi au soleil à Vaison-la-Romaine pour cette deuxième journée de repos sur le Tour de France avant d'attaquer les dernières étapes. Et quelles étapes, nous allons encore nous régaler, probablement, on l'espère en tous les cas, durant les quelques jours qui nous séparent de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ce sera dimanche prochain, arrivée en nocturne avec l'Arc de Triomphe tout éclairé et un peloton qui en a plein les bottes et qui sera ravi évidemment d'arriver sur les champs, un peu comme l'équipe d'RMC, évidemment. L'équipe RMC qui n'est pas là au complet aujourd'hui, c'est jour de repos, mais rassurez-vous, il n'y a pas vraiment de repos pour les suiveurs aujourd'hui. Ils sont partout, les cow-boys, à rechercher les conférences de presse, recueillir les interviews des uns et des autres. Pierre-Yves Leroux, Pierre Higten, Georges Quirino, évidemment, Frédéric Adam. Il y en a qu'un qui est avec moi, il est magnifique, il est torse nu, mais alors un torse de jeune homme. C'est évidemment notre druide international que je salue. Bonjour Cyril.
Bonjour Frédéric. Eh bien, bonjour.
Comment Frédéric hein? Bonjour Frédéric maintenant, c'est nouveau. Ben non, il n'a pas encore pris ma place.
Bonjour Frédéric. bonjour Georges. Bonjour Pilou et bonjour Christophe. Voilà.
Ça va,
et puis, qui nous écoute là-haut?
Ah, je ne sais pas. Dans la tribune commentateur?
Non, à Paris.
À Paris, eh ben, ils sont tous là. Tout le monde nous écoute.
Eh bien, je les salue tous.
Eh bien, on est content de vous retrouver. Pierre-Yves, il est avec nous justement. Il est pas à Vaison-la-Romaine, il est à Avignon, me semble-t-il. Salut Pierre-Yves.
Non, je suis passé un peu partout, mais là, je suis à Carpentras maintenant.
D'accord. Je suis un peu perdu là avec vos allers-retours aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas vraiment une journée de repos. Enfin, c'est une journée de repos pour les coureurs, Pierre-Yves, mais pour les reporters, c'est particulièrement soutenu, hein, avec les conférences de presse qui ont commencé ce matin à l'aube. Il y en a un peu partout, d'autant que tout le monde n'est pas rassemblé au même endroit. Là, c'est un peu dispatché dans toute la région avec un diamètre d'environ 30 km. Hein.
Oui, et puis c'est vrai que c'est une deuxième journée de repos aussi où les équipes en profitent soit pour faire le point sur la course, soit pour annoncer aussi certaines choses. On en reparlera tout à l'heure du côté d'Europe Car avec Pierre Higten. Et puis, bien voilà, évidemment, il y a des conférences de presse auxquelles on ne peut pas échapper, comme celle du leader avec l'équipe Sky ce matin à 10h ou celle de son principal concurrent Alberto Contador. Donc voilà, il faut être un petit peu partout en ces journées de repos, mais bon, c'est intéressant aussi de voir comment se comportent les équipes à une semaine de la fin de ce Tour de France.
Évidemment, et donc ce matin tu étais à la conférence de presse de la formation Sky qui est au cœur de la polémique, évidemment, qui est au cœur du maillot jaune avec Chris Froome qui a remporté l'étape mythique du Mont Ventoux hier et qui a conforté son maillot jaune. Il possède, je vous le rappelle, 4 minutes 14 désormais au classement général, 4 minutes 14 d'avance sur son premier dauphin Bokeh Mollema. Donc Christopher Froome qui était très attendu parce que depuis hier, depuis cette accélération, ces accélérations fulgurantes dans la montée du Ventoux, eh bien les réseaux sociaux se sont enflammés, les suiveurs également, et on n'a pas pu éviter ce matin les questions concernant le dopage. Et j'imagine que chez Sky, on commence à en avoir un peu ras la casquette de toutes ces questions, non ?
C'est vrai que c'était très particulier l'ambiance ce matin. Il y avait un vrai, très rapidement on a senti le malaise, la tension. David Pressford, le manager de Sky, et Christopher Froome sont arrivés vers 10h devant une centaine de journalistes pour la presse écrite d'abord, avant un entraînement de reconnaissance de l'étape de demain qui a débuté vers 11h15. Il y a eu une première question sur la victoire d'hier, et puis très vite le débat s'est installé autour de la suspicion. Chris Froome a répondu un peu agacé, puis David Pressford lui est venu en aide. Ça a duré une quinzaine de minutes, totalement vampirisé donc par cette question du dopage. Et à la sortie devant les bus, Chris Froome évoque sa victoire d'hier un peu gâchée. On l'écoute.
Le jour après une victoire comme ça, c'est, je ne sais pas trop le mot en français, it doesn't leave me with a good feeling after yesterday's victory and the really good feelings from yesterday, and just to be asked about doping today, it's a big shame, I think.
Donc, ouais. Voilà, il commence en français puis il termine en disant ça ne me laisse pas de bonnes vibrations après la victoire d'hier, et le plaisir éprouvé d'avoir à répondre que sur le dopage aujourd'hui, c'est vraiment honteux. Il était un peu fâché, et devant les bus en fait il a répondu par petits groupes comme ça à chaque fois deux questions. La première parlait de la course, mais la deuxième était à chaque fois sur le dopage.
Ouais, évidemment. Cyril, c'est vrai que ça doit être dur quand même pour un champion de devoir répondre à ces questions tout de suite. Il ne peut pas profiter de sa victoire, il est obligé de se défendre à chaque fois qu'il remporte une étape sur le Tour de France. Ça doit être quand même dur à vivre, surtout s'il est propre, s'il est net.
Je trouve que l'attitude que l'on a tous les uns ou les autres n'est pas très honnête. Non, on est tout simplement en train de faire quoi ? En train d'essayer de le broyer psychologiquement sur une impression. Je trouve ça presque dégueulasse. Mmh. Je suis désolé de le dire. Sur deux questions, il n'y en a qu'une qui est sur le dopage. En fait,
Il y en a qu'une qui est sur la victoire, en plus.
Quel est son rapport avec le dopage? Est-ce qu'il a eu un contrôle positif? Est-ce qu'il est ciblé?
Oui, il est ciblé actuellement.
Il est ciblé. Hein.
Bah oui, il est maillot jaune.
Trois contrôles antidopage dans la journée d'hier pour Chris Froome, Pierre-Yves, c'est ça?
Oui, exactement. Et on a demandé d'ailleurs à Dave Restore s'il avait une idée du nombre de contrôles depuis le début du Tour de France. Il dit on note tout, mais je suis incapable de vous dire le chiffre, mais ça n'arrête pas, effectivement.
Ouais, évidemment.
Non, mais c'est logique. Il y a les contrôles.
Il y a le leader et le vainqueur de l'étape. Donc,
voilà, oui, et puis l'ensemble des coureurs sont contrôlés sur le Tour. Il n'y a pas que lui qui est contrôlé. Mm-hmm. Donc attends, aujourd'hui, on n'a pas une once de preuve pour pouvoir l'attaquer en permanence. Alors, moi, je ne sais pas, je me demande si j'étais lui, si j'ai dit, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, puisque c'est ça, bah, écoutez, je rentre à la maison. Mm-hmm. Non seulement je rentre à la maison, mais je vais regarder tout ce qui a été dit et comment ça a été dit. Je crois qu'il y a un moment, il faut respecter le sportif. Il faut respecter le champion. Il n'est pas né hier. Il a déjà un palmarès avant. Attendez, ouais. Non, je suis pas d'accord avec ce genre de
Cyril, c'est vrai qu'on se doutait que ce Tour de France 2013 serait particulier puisqu'il intervient après les révélations de Lance Armstrong durant cet hiver, durant ce printemps. Tout le monde savait avant le départ, on se disait de toute façon ça va être un tour difficile à vivre pour les coureurs, pour les suiveurs également, parce que c'est pas facile pour nous non plus de devoir à chaque fois manquer d'enthousiasme ou essayer d'instaurer le doute. On savait de toute façon l'après Armstrong, on savait que cette année ça allait être un tour très lourd à vivre.
Bien, on sait particulièrement depuis les années Armstrong et puis toutes les affaires que de toute façon on aurait toujours ce serpent de mer, c'est-à-dire que dès que vous gagnez, eh bien il y a suspicion, c'est-à-dire qu'il faut pas gagner. Mm-hmm. Faut pas gagner, faut faire dixième tous les jours et puis faire celui qui se fait toujours plus ou moins lâcher par les autres et puis là vous êtes quelqu'un de propre. Mm-hmm. C'est pas comme ça que les choses se passent.
Ça a touché en tout cas énormément aussi Nicolas Portal, son directeur sportif, qui semblait un peu triste, qui a répondu à quelques questions, mais il était aussi touché. Je vous propose de l'écouter. Il était juste au moment de partir pour la sortie de reconnaissance, donc il s'est déroulé ce matin.
Forcément, ça doit lui gâcher son plaisir. C'est comme moi, quand je crois en eux, on fait tout notre travail à fond, et puis c'est sûr que moi, ça me blesse. Alors j'imagine lui quoi, qui est au cœur du sujet quoi. Toutes ses performances sont remises en question. Il y a des attaques très personnelles sur lui, des choses qui sont bien plus dures que ce que je vis moi. Donc je me dis, ça va vraiment être pas facile à vivre. Là.
Vraiment pas facile à vivre. Hein. On sent qu'il est désespéré. Nicolas Portal qui est confident de Chris Froome, qui est son directeur sportif, mais il est très proche de son coureur, hein, Pierre-Yves.
Ah oui, c'est vraiment lui aujourd'hui que Chris Froome a sans arrêt dans les oreillettes pour la stratégie. Ils sont très très proches. Il y a vraiment là un duo qui est en train de se former. La réussite de Chris Froome passe aussi par la tête de Nicolas Portal et qui l'aide beaucoup dans le Tour de France.
Alors, à la différence des anciens vainqueurs du Tour de France et des équipes qui entouraient ces vainqueurs, il n'y a pas de question tabou chez Sky, Pierre-Yves. On répond aux accusations de dopage. On a entendu Chris Froome parler. J'imagine qu'il y a quelques années, Lance Armstrong, il vous fusillait du regard et vous pouviez pas poser une question. Les années qui ont suivi, c'était la même chose. Aujourd'hui, non seulement le maillot jaune répond aux accusations, même s'il n'apporte pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'il peut apporter de toute façon? Et même son équipe, son directeur sportif ou encore son manager, qui propose même des solutions, Dale Bresford.
Oui, il poursuit sa mission en fait, Dale Bresford, depuis le début de ce Tour de France. Il tente par tous les moyens de convaincre les sceptiques et propose finalement une totale transparence. Georges. Écoutez-le une nouvelle fois par rapport à cette difficulté qu'il a à convaincre tout le monde.
Et au bout d'un moment, quand toutes les questions que vous posez, c'est est-ce que vous êtes en train de doper? Et moi j'ai dit non. Voilà, ok. Et la prochaine question, est-ce que vous êtes en train de doper? Non. Au bout de dixième, centième, non. Je ne sais pas, c'est assez difficile. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on va essayer de travailler ensemble pour essayer de trouver une solution où on peut créer quelque chose où tout le monde doit être satisfait. Il faut avoir quelqu'un avec l'autorité, avec la connaissance. Et pour moi, c'est peut-être WADA. Nous, on sera tout à fait prêts que quelqu'un de WADA arrive. On va montrer tout ce qu'on fait, tous nos chiffres, tout l'entraînement, tout ce qu'on fait. Et on peut mettre ça, en plus, avec l'information de sang, le biological passport. Mais tout ça ensemble, avec du poids, avec la composition du corps, la graisse, le muscle, tous les données qu'on peut avoir, mais tout ça ensemble, donner à un expert de WADA, et eux, ils peuvent nous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas ou non.
Voilà, c'est l'AMA.
Oui, l'agence mondiale. D'accord. Donc, alors, il propose de dévoiler, en fait, tous les chiffres, la physiologie complète de Chris Froome, c'est ça, a priori.
Oui, il ne veut pas livrer ça en pâture à tout le monde. Hein. Il ne veut pas que les chiffres apparaissent pour le grand public, mais il veut bien qu'il y ait une autorité indépendante qui gère ça, qui observe ça, et qui transmette ensuite son bilan et qui explique que, voilà, tout est clair, quoi.
Ouais. Cyril, est-ce que c'est la bonne solution de carte blanche
C'est aujourd'hui la seule solution, non pas pour convaincre tous les sceptiques, parce que vous savez, on n'arrive pas à convaincre quelqu'un contre son gré, et qu'au moins on ait la certitude que tous les éléments que l'on peut avoir ne laissent place à aucune possibilité de suspicion, sauf pour ceux qui veulent continuer à ne pas croire. Mm-hmm. Bon, il faut quand même savoir que, je ne sais pas si vous... On ne le dit pas, mais est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait cet hiver à la Sky ? Ils ont licencié toutes les personnes de leur équipe qui avaient eu à un moment...
Un rapport avec le dopage.
Un rapport avec le dopage.
Impliqué dans les affaires de dopage.
Pas obligatoirement impliqué, mais y compris ceux qui avaient dit, bah, écoutez, oui, bah, nous, à une époque, on a fait.
Notamment Sean Yates, qui était le directeur sportif de Bradley Wiggins.
Et Bobby Julich. Qui est quelqu'un qui a dit, bah, oui, à telle époque, j'ai pris ça. Ça a été courageux parce qu'à cette époque-là, comme par hasard, c'était l'affaire, à l'époque de l'affaire Festina. C'est-à-dire que tous les courants reprenaient. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait ? Alors, quand vous vous permettez de faire ça, ça veut dire que vous n'avez pas de casserole au cul non plus, quoi. Mm-hmm. Alors maintenant, ils vont donner... Alors effectivement...
Cyril.
Oui. Non, attends, juste que vous... ils vont donner aussi, apparemment, ils vont donner les puissances, comme ça permettra à ceux qui travaillent dans leur fond de fauteuil en regardant la télévision de donner comme chiffre n'importe quoi, hein, parce que je me suis aussi amusé à faire des chiffres, parce que j'ai aussi une formation en entraîneur. Hein, bon. Ça va les calmer déjà, parce qu'il y en a qui alimentent ça, mm-hmm. avec des chiffres faux.
Ouais. Cyril, en ton âme et conscience, les yeux dans les yeux, regarde-moi dans les yeux immédiatement.
Monsieur Jean-Jacques Bourdin.
Cyril, tu es persuadé que Chris Froome est propre à 100%?
Moi, j'en suis persuadé, mais je sais que ça ne fait pas l'unanimité.
Très bien, voilà. Et il m'a regardé dans les yeux. Alors, je sais qu'en radio, c'est pas très radiophonique. On va faire venir l'équipe de Jean-Jacques pour nous filmer. Mais en tous les cas, vous avez entendu la réponse du druide. On va remercier Pierre-Yves. Pierre-Yves qui, dans quelques instants, va nous mettre à l'antenne de sacré coursier d'une formation belge.
Je crois que je suis le seul.
De quoi?
À être persuadé.
Oh non, non, il y a d'autres. Non, tu n'es pas le seul, évidemment. Hein, dans quelques minutes, Pierre-Yves, Sylvain Chavanel et Jérôme Pinault, les deux coureurs français de la formation Omega Pharma à Quickstep seront avec nous. Donc on te laisse quelques instants et on te reprend dans quelques minutes avec eux.
À tout à l'heure.
L'autre leader évidemment de ce Tour de France, même s'il n'est que troisième aujourd'hui au classement général, c'est Alberto Contador. Et lui aussi a donné sa conférence de presse. C'était en début d'après-midi, une conférence de presse à laquelle Georges Quirino a assisté. Salut Georges.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Alors on l'a vu, ambiance très lourde ce matin à la conférence de presse de la Sky. Est-ce que l'ambiance était aussi lourde chez la Saxo ? Chez la Saxo, on n'a pas le sourire évidemment parce qu'on n'a pas gagné hier. Et puis là aussi, on pose beaucoup de questions sur le dopage.
Alors on n'a pas le sourire effectivement à cause des performances sportives. Alberto Contador qui a été assommé hier, mais qui continue d'y croire, hein, à la victoire finale. D'ailleurs il en a reparlé tout à l'heure. Et puis c'est vrai que c'était un petit peu comme chez les Sky, c'est-à-dire que la toute première question de la conférence de presse a été au sujet de Christopher Froome, et donc des questions auxquelles il y avait eu à répondre le matin. La question a été posée simplement à Alberto Contador. Avez-vous confiance en les performances de Christopher Froome? Alors on ne va pas l'écouter parce qu'il y a un petit problème visiblement, mais Alberto Contador a été très sec. Il a regardé un petit peu tout le monde les yeux dans les yeux, comme tu dis Christophe, en précisant tout de suite, je ne répondrai à une seule question sur le dopage. À la deuxième, je me lève, je vais dans ma chambre et je me repose de ma journée et de ma semaine de travail. Il a ensuite répondu par rapport aux performances de Christopher Froome en disant qu'il trouvait cela tout à fait normal, qu'il était à ce niveau depuis le début de la saison, qu'il n'y avait rien de surprenant, alors que cela était le fruit de son travail, surtout alors en son âme et conscience. Lui est sûr que Christopher Froome est propre. C'est vraiment comme ça qu'il l'a dit, en précisant qu'il y avait des contrôles également qui étaient là pour ça. La question a également été posée à Philippe Mauduit, son directeur sportif, les directeurs sportifs d'Alberto Contador, pour savoir s'ils avaient revu avec son leader les images de l'attaque, les images impressionnantes de l'attaque hier. Philippe Mauduit nous a répondu que oui, il l'avait revu, que c'était d'ailleurs assez rigolo de voir la réaction d'Alberto Contador face à ces images. Il nous a simplement dit que l'Espagnol avait trouvé ça très fort, qu'il trouvait ça très beau et qu'il n'avait été que simple spectateur de cette ascension, qui avait été impressionné en tout cas par la démonstration de Chris Froome.
D'accord, mais défense, solidarité hein, des coureurs cyclistes.
Solidarité,
autour
de... ouais. Ouais,
solidarité. Ah, ouais, on ne va pas commencer à se débiner, en tous les cas en public. Hein, ça c'est évidemment, on ne sait pas quel est le discours tenu en dehors des caméras et des micros, mais pour l'instant donc solidarité entre Contador et son rival Chris Froome. Et pourtant Contador a été balayé, pas balayé, mais enfin pas mal, oui. Allez, on peut le dire, hein, Cyril qui opine du chef. Là aussi, c'est pas de la télé, c'est de la radio, donc il faut que je vous traduise et je vous raconte ce qui se passe dans notre petit camion RMC. Merci Georges, tu avais d'autres choses à nous dire, non, sur la Saxo, non? Ils envisagent quand même une belle troisième semaine de gagner, peut-être?
Oui. Bah, comme il l'expliquait hier, un mano à mano avec Chris Froome, il va perdre, il le sait. Donc en gros, il faudra jouer très tactique avec l'équipe pour essayer de surprendre Christopher Froome dans la troisième semaine. Mais Alberto Contador, il a prévenu, deuxième ou dixième pour lui, c'est la même chose. Donc il prendra tous les risques pour essayer de faire vaciller le maillot jaune, en tout cas jusqu'au bout.
Très bien, merci Georges, à tout à l'heure. Donc conférence de presse de la Saxo. Nous y étions également tout à l'heure à la conférence de presse de la formation Europcar qui a annoncé que le sponsor allait poursuivre l'aventure durant 2 ans. Nous écouterons tout à l'heure le reportage de Pierre Richten qui pour l'instant est allé à la rencontre du patron du Tour de France, Christian Prudhomme. On vous dit tout, Christian Prudhomme qui lui aussi voulait intervenir sur le CAF Roum et les soupçons qui pèsent sur le Tour de France depuis si longtemps. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Sylvain Chavanel et Jérôme Pinault. Sylvain Chavanel qui est l'un des porte-parole du peloton français, autre porte-parole de ce peloton français, Thomas Vauclair, même si cette année il est un peu dans le dur, Thomas Vauclair lui aussi a tenu à s'exprimer à propos de la performance de Chris Froome. On l'écoute tout de suite.
Ouais, moi j'ai pas vu après les chiffres, les watts, j'en sais quelque chose pour avoir été critiqué suffisamment là-dessus. Je peux vous assurer que là je cherche pas de prendre la défense de Chris Froome ou quoi. Les watts, le seul moyen de les calculer c'est de prendre son SRM et d'avoir ses données. Tous les autres calculs, il y a trop de paramètres extérieurs qui influent pour pouvoir en tirer une quelconque conclusion. Je sais très bien que moi lorsque j'ai sorti des beaux numéros, on a aussi pu émettre des doutes à mon sujet. Comme moi-même, j'ai pu émettre des doutes sur certains. Avec des affaires de dopage qui ressortent régulièrement depuis des années, vous pouvez pas en vouloir aux gens de douter. La vraie victoire, ça sera le jour où on n'aura plus aucun doute sur un vainqueur.
Voilà, très bon témoignage de Thomas Vauclair, hein, Cyril.
Oui, plein d'objectivité, de bon sens. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est presque plus facile pour lui dans la mesure où il s'est retrouvé dans cette situation.
Oui, oui.
Donc il a une approche peut-être un peu différente des autres et de éventuellement.
Mais en même temps, il dit qu'il comprend aussi que les gens puissent douter avec.
Oui, non, mais on l'a évoqué. Mm-hmm. Et Christophe, tu l'as évoqué au début de cette émission. Oui, il y a eu toute l'ère j'ai envie de dire, la mafia UCI a fonctionné avec Lance Armstrong. Mmh. Bon, alors c'est sûr qu'aujourd'hui c'est assez difficile, d'autant qu'on a encore les mêmes là-haut. Hein. Ben oui, on a encore les mêmes parce qu'eux ils arrivent à tourner, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de pouvoir au-dessus d'eux pour les foot dehors, puisque même Pat McQuaid, qui est même plus capable l'investigation de sa fédération irlandaise, ouais. Il est en train d'essayer d'avoir l'investigation de la fédération suisse pour pouvoir continuer à se présenter, mmh. Et après on sait ce que sont les élections à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus dans l'ère Armstrong. Mmh. Il faut le savoir qu'il y a l'USADA qui est passé par là. Et l'USADA, elle a fait le ménage avec Lance Armstrong. Elle est en train de le faire dire dans un autre sport.
Oui, en athlétisme, hein, puisqu'on a appris voilà. Hier, mais on en parle beaucoup moins, tu as remarqué. Deux énormes stars de l'athlétisme qui sont tombées
ouais,
hier,
non, là, ça
ne fait pas la une des journaux. Très bien.
Mais attendez, là-bas, c'est des contrôles avérés, ça fait pas le buzz. Nous, on a un doute sur quelqu'un, ça fait le buzz. Alors, il y a quand même une juste mesure j'ai presque envie de dire dans le choix des informations.
Très bien. Allez, on va revenir dans quelques instants, toujours en direct de Vaison-la-Romaine, ici au jour de pour cette journée de repos avant la dernière semaine du Tour de France. Dans quelques instants, nous serons avec Jérôme Pinault, l'un des coureurs de la formation Omega Pharma Quickstep, qui a réalisé une première partie de Tour de France tout à fait magistrale. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur Europcar, qui a donc décidé de poursuivre 2 ans l'aventure avec la formation de Jean-René Bernadeau. A tout de suite.
RMC. c'est Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et nous sommes ce soir en direct de Vaison-la-Romaine, au soir de la deuxième étape, journée de repos plus exactement, de ce Tour de France, avant d'attaquer les dernières réjouissances, et elles seront nombreuses, les réjouissances d'ici l'arrivée à Paris, Cyril. Hein. Demain, une étape qui va nous amener jusqu'à Gap, avec une étape accidentée, on va en parler dans quelques minutes avec les coureurs, avec Jérôme Pinault et Sylvain Chavanel. Ensuite, évidemment, il y aura le contre-la-montre, qui devrait une nouvelle fois voir Chris Froome s'imposer, puis l'étape de l'Alpe d'Huez, la montée de l'Alpe d'Huez à deux reprises, et entre les deux la descente vers Sarenne, et puis encore deux étapes avant d'arriver à Paris. Bref, on va probablement se régaler encore toute la semaine qui nous amène jusqu'à Paris. Alors évidemment, on va peut-être pas se régaler quant au suspense, parce que Chris Froome et ses coéquipiers ont tué le suspense, mais on sait que tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées, on n'est non plus pas complètement sûr de remporter le Tour de France, Cyril. Il peut arriver des choses. Une défaillance est toujours possible.
Oui, elle est d'autant plus possible que le harcèlement qui a lieu.
Tu penses que ça peut influer?
Oui, non. Attendez, vous le mettez dans une situation absolument détestable. Comment voulez-vous qu'il puisse rester serein alors que c'est quelqu'un qui a plutôt envie d'être aimé? Comme tous
et
les sportifs,
qui est un garçon très sympa en plus.
Et en plus,
répond aux interviews en français.
Pas dénué d'intelligence non plus, mm-hmm. Parce que regardez la qualité de ses interviews, et pas depuis aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs à l'époque où il y avait eu le problème avec Wiggins pendant le Giro, et où j'avais dit voilà quelqu'un qui a vraiment des réponses extraordinaires par rapport au problème qui était celui du conflit avec Wiggins. Donc voilà quelqu'un que ça va toucher, peut-être déstabiliser, et peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de faire le jeu des adversaires en mettant cette pression, ce harcèlement, peut-être en train de faire le jeu des adversaires de Chris Froome.
Alors comment faire justement pour protéger son coureur, Cyril? Est-ce que si tu étais aujourd'hui dans la peau de Bryce Ford ou de Nicolas Portal, qui sont les deux patrons de Chris Froome, qu'est-ce que tu ferais? Tu l'éloignerais de la lecture des journaux, des interviews des journalistes, de la lecture des réseaux sociaux, parce que sur Twitter et sur Facebook, là aussi ça y va. Hein.
Ben, je pense que dans cette situation-là, et même dans d'autres, je crois qu'il ne faut pas, il faut se couper de toutes les informations. Attendez, je suis désolé, quand vous allez sur les réseaux sociaux, il m'arrive d'y aller, il y a tout et son contraire. Mais il y a, lorsqu'il s'agit d'attaquer quelqu'un, c'est quand même 90%. Pour le défendre, en règle générale, il y en a beaucoup moins. Donc un, il ne faut plus qu'il s'intéresse aux réseaux sociaux. Deux, il ne faut plus qu'il lit les journaux. Trois, il ne faut plus qu'il regarde tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur le Tour de France. Il faut qu'il se mette dans sa bulle, ce qui ne va pas l'empêcher éventuellement de suivre l'information, on va dire, de façon générale. Et puis, il y a un moment où il ne doit plus répondre à ces questions-là en disant, écoutez, je ne réponds pas à ces questions-là. Maintenant, si vous avez des preuves, vous pouvez me poser une question.
Mm-hmm. Oui, mais ça, c'est...
Mais attention, si vous avez une preuve, si vous n'avez pas de preuve, à partir de ce moment-là, je verrai comment je réagirai.
Oui, mais ça, c'était un peu malheureusement la solution adoptée par Lance Armstrong.
Non. Attends, il l'a pas fait.
Est-ce que se fermer est la bonne solution? Non. Je suis pas convaincu.
Armstrong, il va sur les réseaux sociaux, il essaye de les manipuler. Mm-hmm. C'est très bien. Et il les manipule depuis très longtemps, et surtout depuis qu'il a fait des débuts d'aveu dans une grande émission de télévision aux États-Unis. Bon, il y a un moment, faut arrêter. Vous avez des problèmes? Non. Alors, il doit se couper. Alors qu'il lise pas Facebook et qu'il aille pas sur Twitter. Attendez, ça ne va pas l'empêcher de vivre et ça ne va pas empêcher les réseaux sociaux de continuer. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il se mette, lui, dans sa bulle. Mm-hmm. Il faut qu'il arrête, qu'il arrête d'être touché par tout ce qui va être dit contre lui.
Ouais.
S'il ne le fait pas, ou si on ne lui conseille pas de le faire, y compris son épouse d'ailleurs, qui le défend
vaillamment, Michel Caron.
Oui, mais c'est normal.
Mais même elle,
il ne faut plus qu'elle aille sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Mais c'est la première chose à faire. Parce que moi, j'ai lu quelque chose rapidement ce matin,
ouais,
où on commence à le siffler. Vous savez, si vous continuez comme ça, il ne va pas pouvoir finir le Tour de France.
Rappelez-vous des sifflets aussi qui avaient touché Alberto Contador il y a quelques années.
Et puis il y en a eu sur Merckx, il y en a eu sur Jacques Anquetil aussi.
Merckx qui avait même été frappé par un spectateur sur le bord de la route.
Il faut faire attention. Je pense qu'on a peut-être aussi une part de responsabilité dans la sécurité de ce coureur aujourd'hui.
Très bien. Cyril, on s'est amusé hier soir à aller justement sur Twitter pour voir ce qu'on disait autour de toi. C'est vrai qu'on il y a des choses. Hein. Cyril était complètement déprimé hier soir. Il ne veut plus jamais aller sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est fait un peu assassiner par les gens qui...
Non, mais je crois que c'est un jeu aussi.
Oui.
Ça devient un jeu. Chacun va se défouler sur... Alors, quelquefois, il arrive que vous avez des analyses qui sont faites et qui sont censées. C'est vrai aussi sur les forums des sites Internet. Mais quand vous voyez certaines réactions de gens qui sont absolument pas au fait des choses, et je parle pas que pour le dopage, pour d'autres choses, vous vous dites, mais attendez, on est à un milliard d'années-lumière de la réalité. Et là, on se dit, mais information, désinformation, où est-ce qu'on va aller chercher sa vérité ou la vérité? On est complètement désarmé, voire désunis par ce genre de choses. Mais d'un autre côté, on sait que ces réseaux sociaux, dans certains cas, sont très positifs. On sait, dans certains conflits qui ont eu lieu depuis quelques années dans certains Bien pays sûr. Et qui peuvent et qui ont pu avoir lieu grâce à ces réseaux sociaux.
Façon d'avoir des informations. Donc, oui.
Vous savez, il y a toujours le côté intéressant, le côté positif des choses. Et puis vous avez, comme partout, vous avez aussi, la face cachée de la médaille. Et là, c'est pas très bon non plus. Là, faut essayer d'y trouver. Il faut aller chercher ce qu'on a envie de chercher. Et puis il faut chercher des informations qui vous apportent quelque chose, ouais. Mais qui soient avérées.
Donc pour Chris Froome, il faut pas aller regarder les réseaux sociaux d'ici l'arrivée sur les Champs-Élysées.
J'espère qu'il ne va pas
le faire. Et, Cyril, d'un point de vue sportif, est-ce que tu penses que certains ont des coups à faire d'ici à l'arrivée sur les Champs? Il y a quand même vraiment un beau plateau, un beau programme présenté par les organisateurs du Tour de France. Il y a ce contre-la-montre après-demain. Il y a même cette étape de demain, étape vers Gap.
Attendez, le final, c'est un beau final. On l'a passé il y a 2 ans déjà, hein, par le col de Mans et la descente de cette côte que l'on connaît bien. Écoutez, il faut tenter. Attendez, les coureurs qui sont sur le tour, qui sont aujourd'hui en position de battue, où ils assurent? Et ils sont là en disant, je suis sixième, il faut que j'assure ma sixième place, ou je suis quatrième, il faut que j'assure ma quatrième place. C'est pas l'essence même du sport. Bon, donc il va falloir à un moment dire, j'y vais. Je pète, ça passe, tant mieux. Ça passe ou ça casse. Bon, mais c'est ça la beauté du sport. Donc il y a un moment, il va falloir se jeter dans la bagarre. Mais rappelez-vous, il y a 2 ans, ce qui avait d'ailleurs amené la victoire de Pierre Roland à l'Alpe d'Huez, sur une étape relativement courte, Contador avait tout tenté ce jour-là. Eh bien, il faut partir dans cet état d'esprit si on veut bouger la course.
Très bien, Cyril. Donc on va voir évidemment cette dernière semaine qui commencera demain par cette étape qui se dirige vers Gap. On va se quitter quelques instants et revenir dans 2 minutes. Jérôme Pinault nous attend. Il va nous parler de ce formidable succès de la formation Omega et de ses ambitions sur Tour de France, parce qu'il a des bonnes ambitions et il a la jambe. Hein, Cyril, tu me le disais l'autre jour dans la voiture. Il tourne.
Écoutez,
sévère,
moi, c'est le tour où il m'impressionne le plus.
Très bien. Et il en a fait quelques-uns. Je crois que c'est son 12e ou 13e tour.
Oui, non, mais là, il a de la force, il est présent, il est actif. C'est d'ailleurs le premier coureur qui vient à la barre quand il faut rouler.
Pour Cavendish. Très bien, il sera avec nous dans un instant, puis on espère également avoir Sylvain Chavanel, qui lui aussi envoie du bois depuis quelques jours. Il était hier le premier au pied du Mont Ventoux, avant évidemment d'être englouti par les leaders du général. Allez, on se retrouve dans un instant, toujours en direct de Vaison-la-Romaine pour l'intégrale Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour en direct de Vaison-la-Romaine. Ce soir, c'est la deuxième journée de repos pour les coureurs du Tour de France. Journée évidemment bien méritée avant d'attaquer le plat de résistance de ce Tour de France. Les Alpes qui attendent donc tout ce petit monde à partir de demain. Cyril Guimard est toujours à mes côtés et nous allons partir tout de suite pour l'hôtel de la formation Omega Pharma Quickstep. Pierre-Yves Leroux est là-bas. Il était déjà avec nous tout à l'heure. Rebonjour Pierre-Yves.
Rebonjour Christophe. Avec la piscine, comme souvent,
oui, quand
avec
même.
Toute la frustration que ça comporte.
Oui, parce que là, c'est interdit de se baigner, hein, pour les coureurs. Hein. C'est pas possible, ça. Hein.
C'est pas conseillé, mais je vais quand même vous dire que j'ai vu un certain Roman Kreuziger tout à l'heure plonger pendant Alors, il a été 4-5 minutes dans l'eau quand même. Voilà, et on me fait signe sur ma droite que ça a été le cas à un moment aussi. Jérôme Pinault, je vous le laisse, il va confirmer l'information.
Ça, c'est une vieille idée reçue qu'un coureur cycliste ne doit pas se baigner. Et avec le recul, parce que j'ai eu le même réflexe lorsque j'étais coureur, ça m'arrangeait bien parce qu'en plus, je ne savais pas nager à l'époque.
Pour un breton, c'est quand même embêtant.
Les bretons ne savent pas nager, même les pêcheurs, hein, faut quand même le savoir. Bon, enfin, la plupart à l'époque surtout. Mais on nous avait dit, il ne faut pas vous baigner parce que l'eau durcit les muscles, etc. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même avis. Et puis, on a vu tellement de triathlètes arriver à faire des belles performances après avoir fait de la natation. Non, je crois que c'est une vieille idée reçue sur laquelle il ne faut pas s'attarder.
Alors, Jérôme Pinault est avec nous. Bonsoir, Jérôme.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Jérôme, tu es allé te baigner aujourd'hui ? Tu as piqué une petite tête quand même dans la piscine ?
Ouais, je suis allé ce matin en entraînement et puis hier soir en France. Je suis d'accord avec Cyril, ça fait pas de mal. Derrière nous, on applique la cryothérapie en piscine, donc tous les soirs on se baigne au moins 5 minutes. Donc c'est une vieille idée reçue et c'est des choses que j'essaye d'apprendre à mes jeunes parce que c'est une idée complètement fausse.
D'accord, donc on a le droit aussi à la détente, à la relaxation quand on est coureur cycliste et ça fait du bien, surtout avec les chaleurs aujourd'hui, la chaleur qu'il fait aujourd'hui sur toute la région. Jérôme, on est ravis de t'avoir et j'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, mais Cyril me disait dans la voiture hier et avant-hier, Jérôme réalise probablement son meilleur Tour de France. C'est bien d'entendre ça à 33 ans et après combien ? 12 grandes boucles ?
Ouais, c'est ça, 12 grands tours. Et venant de la part de Cyril, ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup le vélo. Donc, sans faire de lèche-bottisme, ça me fait plaisir. Voilà, ouais, c'est clair que ça va bien. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, ça va très très bien. Et je suis plutôt actif sur ce tour. Donc
oui, ce que je voulais dire, le meilleur, peut-être pas en termes de résultats, parce qu'on s'imagine que réaliser un grand tour de France, c'est gagner des étapes ou des accessites sur les différents classements du Tour de France. Je parle sur un plan de ton niveau de performance, tu es celui qui accomplit un des plus gros travaux en tête de peloton, puisque pratiquement tu es le numéro 1 à prendre les relais quand il faut commencer à rouler, même si c'est à 80 ou à 100 km de l'arrivée. Je parle pas de l'étape, là vous avez les coups de bordure. Et tu es présent pratiquement jusque dans le final, et on sent que tu es facile, que tu as de la force, que rien ne te coûte. Et je pense que sur ce plan-là, c'est ton meilleur tour. C'est mon avis, hein. Maintenant, c'est peut-être pas tout à fait la vérité, je ne sais pas.
Si, je crois que tu dis vrai. J'ai vraiment des très bonnes sensations. On s'était mis d'accord à la sortie du Tour d'Italie avec le staff et avec Marc Cavendish que mon travail serait celui-là. Donc j'y suis venu forcément avec beaucoup d'envie, mais surtout une vraie préparation pour ce genre d'exercice. Je me suis focalisé sur ce travail-là, donc j'ai fait des sorties beaucoup plus longues, beaucoup plus endurantes. Et puis j'ai participé à au Tour d'Italie, ce qui me donne quand même, avec l'expérience, une grosse force, un gros fond de jeu, comme on dit. Et je me sens bien, c'est vrai que ça me coûte pas. Je suis à la deuxième journée de repos, je vais pas dire que je suis pas fatigué, parce que c'est pas la vérité, mais je me sens beaucoup plus frais que d'habitude. J'ai une très très bonne condition. Je crois qu'avec le niveau que j'ai intrinsèquement, le travail, et puis cette petite motivation, cette grinta qu'on a, parce qu'on a quand même un garçon comme Marc Cavendish qui on sait peut conclure un sprint sur deux, on a forcément encore une plus grosse motivation au départ. Donc voilà, ça, j'ai trouvé mon rôle, comme je disais dans les médias avant le Tour de France, et j'espérais vraiment pouvoir faire ce genre de Tour de France. J'ai prouvé à tout le monde que mon niveau était toujours le même malgré les années qui passent, et c'est clair que je suis pas loin de dire comme toi que c'est un de mes plus beaux Tours de France. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que c'est sur celui-ci que je prends le plus de plaisir.
Voilà, du plaisir évidemment à porter, parce que quand on bosse toute la journée comme tu le fais, comme Sylvain le fait, comme d'autres le font, et qu'il y a au bout du compte la réussite avec un coéquipier qui s'impose, que ce soit Cavendish, que ce soit Tony Martin ou que ce soit Trentin l'autre jour, ça fait du bien, parce qu'il y a une espèce d'euphorie qui s'installe dans l'équipe, Jérôme.
Ouais, c'est clair, il y a cette spirale positive comme il y a la spirale négative qui a pu arriver l'an dernier. Cette année, c'est une vraie spirale positive. On a une grosse équipe. Sur le papier, on avait certainement la plus grosse équipe. Ce qui est très très bien et ce qui fait chaud au cœur aussi, c'est qu'il y a eu une très très belle réaction après le contre-la-montre par équipe perdue pour moins d'une seconde, parce qu'on en a vraiment tous pris un coup derrière la tête, que ce soit les plus grands comme Tony, comme Marc ou comme Sylvain. On était vraiment très très déçus le soir de Nice. On pensait avoir fait le maximum, on pensait avoir course gagnée parce qu'on avait roulé très très vite et on a été battu pour coup, et ça nous a mis un coup derrière la tête. Mais ce qui est encore plus beau, c'est la réaction qu'on a eue sur l'étape de Saint-Amand, où on a fait un beau spectacle. J'ai eu très très peu de fois l'occasion d'être autant félicité par les adversaires du coup de bordure qu'on a fait, de l'animation qu'on a mise dans la course. Donc voilà, c'est clair que ça apporte une vraie spirale et cette équipe va bien, vit bien et ça se voit. De toute façon, il y a des grands noms sur le papier, mais il faut voir l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, ça compte énormément.
Ouais, c'est vrai que vous nous avez régalé, hein, nous aussi, à la radio, Jérôme, l'autre jour, dans cette étape vers Saint-Amand-Montrond. Vous avez dynamité la course. On pensait que ce serait une étape de transition et on a eu sans doute l'une des plus belles étapes de l'histoire du Tour de France, en tous les cas de ces 10 ou 15 dernières années. Jérôme, tu es donc l'équipier de Mark Cavendish, un garçon qu'on a souvent décrié. C'est vrai qu'entre la France et lui, ça n'a pas toujours été simple. Et pourtant, on t'a entendu l'autre jour, lors d'une interview que tu donnais à Pierre-Yves Leroux, nous parler avec beaucoup d'affection de Mark Cavendish et nous dire que c'est un garçon qui n'est pas si bad boy que ça finalement et que c'est un garçon pour lequel on a envie de se sacrifier pour l'emmener à la victoire.
Non, c'est un garçon qui est un bad boy, j'aime les bad boys. Par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect aussi. C'est quelqu'un qui est très droit, qui a beaucoup de respect pour ses coéquipiers, qui a toujours un merci, qui est un grand seigneur dans la vie privée, qui régale ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui a une grosse grinta, qui est quelqu'un qui a une grosse envie, qui a une profonde haine envers la défaite. Et donc du coup ça crée des émulations dans l'équipe, mais c'est quelqu'un qui est vraiment adorable, quelqu'un à vivre très très facile à vivre, c'est un grand champion, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a du savoir vivre, qui aime pas les choses qui se font de travers, voilà. Après je sais que dans la caravane, peut-être certains diront que je suis un lèche-cul, comme j'ai pu entendre certains managers aussi le dire. Mais voilà, moi j'assume, j'aime beaucoup ce garçon-là, il a une grosse paire et moi c'est les gens que j'aime bien.
Très bien. Alors tu dis qu'il est bad boy, c'est vrai que de temps en temps il est un peu bad boy. L'autre jour, ce petit coup d'épaule...
Il faut être bad boy, sinon, pour
gagner, ouais, c'est ça. Ça fait partie de la vie de sportif de haut niveau. Autrement, si on est trop béni oui-oui ou bisounours, on ne gagne jamais rien.
On peut le demander à Thierry, c'est un grand spécialiste, mais je crois si on n'est pas un peu bad boy dans la vie, on peut pas réussir dans le sport. En tout cas, dans le sport niveau, il faut faire sa place. L'autre jour, il y a eu un sprint, il y a eu, je pense, un changement de trajectoire du garçon de chez Argos. Marc est passé, réflexe de sprinter, on met un peu l'épaule et il tombe. Dommage, nous on est tous très désolés. Marc a tout de suite dit qu'il en était désolé si c'était fait mal. La vidéo a été faite, les commissaires sont des arbitres comme le sont les arbitres sur le terrain de foot. Il n'y a pas eu de sanction, ça veut dire que personne n'a jugé ça irrégulier et on passe à autre chose. Les quelques petites critiques qu'on a pu entendre par le lendemain, c'est trop tard. Les commissaires sont des arbitres, la décision est prise et voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Marc n'a pas volontairement fait tomber Tom Wheeler, je crois que la vidéo le prouve.
Oui, non, tout le monde est persuadé que la faute n'est pas intentionnelle. Alors c'est vrai que les sprinters particulièrement sont relativement ils ont à peu près 4 tonnes d'adrénaline, mais ce sont les vrais gagneurs et c'est vrai que lorsque la ligne d'arrivée approche, le fair play n'existe plus, mais ça je le connais bien pour l'avoir vécu. La seule chose qui peut être véritablement critiquable, c'est quand la faute est intentionnelle et qu'on cherche vraiment à faire tomber. Je ne pense pas que c'était ce que voulait absolument Cavendish, mais Cavendish, il voulait aller chercher le point de corde. Il sentait qu'il était juste pour la victoire, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui arrête. Ouais. Comme je dis, c'est le seul endroit où on tuerait sa mère. Quoi.
Ah ouais, d'accord, mais toi t'es prêt, tu es père et mère, de toute façon, Cyril, on le sait, on en souffre tous les jours ici à RMC. Jérôme, le lendemain, il y a eu des conséquences, puisque Marc a été victime d'insultes de la part de certains imbéciles sur le bord de la route. On parlait tout à l'heure des critiques et des soupçons autour de Chris Froome et on se disait qu'effectivement il avait aussi été sifflé hier. Est-ce que de temps en temps on sent qu'il y a de l'animosité qui vient du public sur le bord des routes et comment on arrive à gérer ça, Jérôme?
Bah moi, envers ma personne, ça va, ça se plutôt bien. Après, moi je sais que hier je suis resté avec Marc dans toute la montée du Ventoux et j'ai vraiment vu des spectateurs extraordinaires, des gens qui avaient beaucoup de respect pour lui, qui l'ont encouragé. Je savais, dans des stades de football, moi qui suis un grand passionné, excusez-moi de revenir toujours à ce sport, mais c'est vrai qu'il y a toujours 500 imbéciles sur 50 000. Ben là, sur le bord des routes, il y a pratiquement 300, 400, 500 000 personnes. On ne peut pas empêcher les imbéciles de se déplacer, mais je pense que les gens reconnaissent les champions, les gens qui viennent sur le Tour de France reconnaissent la valeur d'un effort et la valeur d'un champion. Et honnêtement, hier, j'ai été vraiment agréablement surpris, et j'ai vraiment pris mon pied dans toute la montée du Ventoux parce que les gens l'ont beaucoup encouragé, que ce soit du premier au dernier. Et voilà, on n'a pas peur de l'animosité, on se méfie parfois. C'est sûr qu'il faut parfois se méfier de certains qui sont un peu trop énervés ou un peu trop éméchés parce que les gens arrivent souvent la veille et faut bien s'occuper en attendant les coureurs. Mais en général, ça se passe très bien. Et on va dire que 99% du public sur le bord des routes est un public très connaisseur et très respectueux.
Alors Jérôme, tu as donc gravi hier le Ventoux dans le groupe Eto en compagnie de Marc Cavendish et de tous ceux qui font surtout la course lorsque la route est un peu plus plate. Et est-ce que tu as pu revoir, est-ce que d'ailleurs vous revoyez les images de l'arrivée et de la victoire d'étape par exemple? Est-ce qu'hier tu as revu les images de Chris Froome lorsqu'il accélère, lorsqu'il lâche Quintana? Est-ce que vous regardez les images le soir après l'étape?
On a regardé l'étape. Moi j'ai regardé le final parce que voilà, j'ai entendu beaucoup de choses après l'arrivée, donc j'ai voulu regarder par moi-même. J'affirme depuis le début que Contador est loin d'être le Contador des grandes années, donc déjà il y a une grosse différence entre lui et Chris Froome. Et Nairo Quintana a fait des fautes de jeunesse, ça fait deux fois qu'il attaque à plus de 10 km de l'arrivée, et on connaît tous le Ventoux, on sait que le moindre effort se paye cher, et Quintana il a coincé à 2 km de l'arrivée. Chris Froome a très très bien couru hier, il a juste eu besoin d'accélérer deux fois pour lâcher tous ses principaux adversaires, et aujourd'hui il a 4 minutes d'avance. Ça fait deux fois 2 minutes, c'est pas énorme quand on voit la difficulté des parcours. Ça pourrait être beaucoup plus s'il avait eu la grosse équipe autour de lui. Malheureusement pour lui, je crois qu'il n'a pas la grosse équipe comme l'avait Wiggins l'an dernier, mais lui est beaucoup plus fort, et donc voilà, ça fait des différences énormes. Ouais. Quand on dans le Ventoux, on a un coureur qui est à 100% et un autre qui est à 80%, ça fait 2 minutes à l'arrivée, il n'y a pas photo. Hein. Et
est-ce que merci Jérôme de valider ce que je dis, parce qu'autour de moi, tout le monde n'a pas cette opinion, et tu fais exactement la même analyse sur l'étape d'hier.
Voilà un futur grand directeur sportif. Hein.
Vous voyez, peut-être même qu'il va me remplacer. Au moins, il n'est pas langue de bois.
Ouais. Non, ça, il n'est pas langue de bois. Ça, on sait, c'est pour ça qu'on apprécie. Si Jérôme, c'est qu'il dit les choses. Et quand il a envie de nous envoyer bouler, il le fait. Jérôme, bon, justement.
Comme je suis le plus très jeune, tu pourras me remplacer sur RMC.
Ouais, tiens, ce sera un très bon consultant.
Dans une voiture d'abord, Cyril, t'as encore un peu de temps.
Il est directeur sportif avant d'être consultant. Est-ce que tu as été impressionné? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, tu sais, Jérôme, les soupçons, le tour de l'après-Armstrong, évidemment, tout le monde a beaucoup de soupçons. Il y a des images qui ont impressionné beaucoup de gens hier sur les réseaux sociaux, notamment. Il y a un véritable embrasement. Est-ce que toi, tu trouve l'accélération, les accélérations successives de Chris Froome suspectes?
Moi, je connais le parcours du Mont Ventoux. Je sais où il a lâché Contador, et on peut presque monter grand plateau si on attaque. Donc déjà, d'une, c'est pas extraordinaire de passer très vite au Chalet Reynard. C'est une pente à 2-3%. Ensuite, il revient sur Quintana, il le dépose. Quintana était très fatigué. Au moins, il n'y a pas de polémique à avoir. Je crois qu'il faut... Il faut continuer à croire en ce que font ces gens-là. Moi, c'est un garçon qui m'étonne pas du tout qu'il soit aujourd'hui avec 4 minutes d'avance. Il a très très bien géré sa saison. C'est un garçon qui monte en puissance, qui est jeune, qui a un grand avenir dans le vélo. Il faut commencer à croire plutôt à un vrai avenir du vélo. Après voilà, il y a des choses qui sont flagrantes. La victoire de Mustapha Sayar autour de Turquie, on a tous crié au scandale. Aujourd'hui, il est contrôlé positif, donc voilà, c'est réglé. Par contre, Chris Froome qui gagne au Ventoux avec 40 secondes d'avance, il n'a pas mis 10 minutes à tout le monde, il a mis 40 secondes à Nairo Quintana, c'est pas un scandale. Et puis ces accélérations, je vous dis, sont à deux points très stratégiques, il ne faut pas rêver. Hein. Tous les commentateurs ou tous les suiveurs du Tour de France analysent ça à chaud après, mais Chris Froome, c'était pas hier la première fois qu'il montait le Ventoux, et je pense qu'il savait très bien où il allait accélérer pour lâcher ses adversaires. Il a fait deux attaques cinglantes, c'est sûr, elles étaient bien placées, et il a gagné l'étape. C'est un peu plus simple que ça, et il ne faut pas chercher des histoires, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas, et il faut continuer à croire, à espérer. C'est vrai que notre sport a beaucoup souffert de ces années passées. Voilà, Lance Armstrong, il faut tirer un trait dessus, il n'est plus là, on l'a puni, il faut qu'il disparaisse et qu'on laisse place à la nouvelle génération, et Chris Froome fait partie de cette génération.
Très bien, merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous et d'avoir joué franc jeu, parce qu'avec Jérôme Pinault, il n'y a pas de langue de bois, on dit les choses.
Il
n'y en a pas, non, c'est pas le genre de la maison. Merci Jérôme.
Vous n'avez pas d'amitié à Luc Leblanc.
Oui, c'est vrai qu'ils se sont chauffés un peu tous les deux par le passé. Hein. Ça va, c'est arrangé Jérôme, ou c'est toujours un peu tendu avec Lucho?
Non, moi, je m'arrange avec les gens quand ils viennent me dire les choses en face, quand ils me le disent.
Voilà,
non,
boum, badaboum. Il n'est pas là. Moi, qui
on a bien fait de le planquer.
On a bien fait de le planquer. Merci,
et
Jérôme.
Il y a aucune animosité. Il peut me voir quand il veut. On boira un café. Il y a pas de
soucis. Très bien. Merci, Jérôme. Bonne fin de Tour de France, évidemment. Il reste encore quelques belles étapes à venir. Merci également à Pierre-Yves Leroux, qui était donc à l'hôtel de la formation Omega. On va se quitter dans quelques instants. Tout d'abord, les courses, évidemment. Le débrief de la journée. C'est Sébastien Darras qui s'y colle comme tous les jours. Salut, Seb. Non, c'est Laurent Guédard. Ah ben voilà, on me dit rien. Ça va, Laurent?
Ça va très 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 bien. Tu avais une chance sur trois. Bon, nous étions à Vichy, mon cher Christophe, aujourd'hui. La victoire dans le quintet pour un outsider, le 4 Mohican, qui s'impose tout à la fin. La cote de 59 contre 1. La deuxième place pour le 13 Zimbali. La troisième pour le 16 Internal Runner. La quatrième pour le 2 Goldenwood. Et c'est le 9 Dabuki qui prend la cinquième place. 4, 13, 16, 2 et 9. Le Désordre apporte 4600 euros. Personne n'ayant trouvé le bonheur. Demain, nous restons à Vichy, toujours avec les galopeurs. 1600 mètres à parcourir. Et pour avoir les toutes dernières infos concernant ce quintet, Cédric de Génicourt, c'est avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour à tous.
Alors Cédric, tu es sur place depuis ce matin. Quels sont les bons bruits qui circulent pour le quintet de demain?
On va essayer de reprendre un autre Frédéric Rossi, le numéro 4 Arizona Run. Aujourd'hui, les Frédéric Rossi n'ont pas fait l'arrivée, mais je pense que Arizona Run, il peut remédier à cela. C'est un cheval qui a très bien couru dans une course à conditions dernièrement. En plus, lui, il apprécie tout particulièrement le tracé de Vichy. Il a couru deux fois, une fois deuxième, une fois quatrième. Donc j'espère que Arizona Run fera l'arrivée demain sur le podium de Vichy.
Alors en cas de défaillance, moi je vous conseille tout d'abord le 13 Court, qui est assurément capable de confirmer son récent succès dans un quintet à Longchamp, même s'il a été pénalisé de 3 kilos. Et j'aime beaucoup de plus en plus le numéro 9 Upper House. Pourquoi? C'est vrai qu'il monte de catégorie, mais attention, il doit être surveillé avec attention pour ses premiers pas dans les gros handicaps. Il a déjà gagné sur cette piste et son écurie est en grande forme. Et je vous rappelle les amis que les paris, les infos sont disponibles sur rmcsport.fr.
Merci Laurent.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
17h57 sur RMC. Le passage de relais continue entre Virginie Fulpin et moi-même. Virginie, c'est à toi. Je reviens dans une heure.
Oui, à tout à l'heure. Christophe, tu arrêtes un petit peu de parler de dopage. Ça agace tout le monde.
L'équipe Sky s'agace.
Chris Froome se renfrogne. Alberto Contador le défend. C'est une journée de repos à Ponchon sur le Tour de France. Cyril Guimard va venir nous en parler dans une demi-heure. Tiens, ici, on parlait aussi de dopage en athlétisme. Vous savez qu'il y a un séisme dans le sprint mondial. Asafa Powell, Tyson Gay, contrôlé positif. Ladji Doucouré, Stéphane Diagana seront les invités de l'Intégral Sport tout à l'heure. Et puis Edinson Cavani est à Paris. Visite médicale et signature de contrat avec le PSG. On en parle avant 19h. À tout de suite.